À votre avis, pourquoi les employeurs n'aiment pas les femmes?
Qu'une femme qui arrive à un niveau cadre a quasiment deux vies, c'est-à-dire d'une part sa vie professionnelle et d'autre part l'organisation de sa maison. Elle doit être très efficace, elle doit être très organisée, ce qui fait que finalement elle arrive à être très compétente et je dirais presque dangereuse pour des hommes qui finalement ont un peu une position privilégiée dans l'entreprise.
Alors vous venez d'entendre un sujet du 20h d'Antenne 2 à l'époque, de 1983. Aujourd'hui les normes ont quelque peu évolué, heureusement, mais le sujet de l'invisibilisation des femmes au travail reste un enjeu majeur. La journée spéciale qui se tient aujourd'hui sur le campus de Sciences Éco aborde justement cette problématique du point de vue de la science et de ses métiers. Je suis allé à la rencontre de Marie-Françoise Roy, enseignante émérite de mathématiques et co-organisatrice de cette journée. Elle nous présente cette thématique.
Alors, est-ce que c'est la première fois qu'une journée de ce genre est organisée à l'occasion du 8 mars ?
Alors, à ma connaissance, oui. C'est-à-dire que l'an dernier, on avait déjà une campagne qui avait le même titre, « Égalité et sciences, la place des femmes », donc qui s'inscrivait aussi dans tout ce qui est organisé par la ville de Rennes au moment du 8 mars. Enfin, ce n'est pas seulement au moment du 8 mars, c'est pendant tout le mois de mars, en fait. Il y a tout un tas d'initiatives de la ville de Rennes qui s'appelle cette année Indivisible et qui prend un nom un peu différent à chaque année. Mais l'an dernier, on avait fait des conférences sur ces différents thèmes de façon décentralisée. Et on s'était rendu compte que finalement, ça ne venait à ces activités que des gens qui étaient du domaine scientifique déjà concernés. Et donc, ça n'a pas du tout joué le rôle qu'on voulait d'une activité interdisciplinaire. C'est pour ça que le bilan qu'on en a tiré, c'est qu'il valait mieux organiser une seule journée, donc qui aura lieu effectivement demain. Donc, sous cette forme-là, oui, c'est la première fois.
Alors, comment s'est mise en place un peu cette journée? Comment vous avez choisi les sujets qui seront abordés? Et comment avez-vous choisi un peu les intervenants qui vont intervenir justement?
Alors déjà, donc, on s'est dit que c'était bien d'associer des doctorants et des doctorantes aux décisions concernant cette journée. Donc on a fait, par l'intermédiaire du collège doctoral, un appel à candidature pour des doctorants et doctorantes qui voulaient participer au comité scientifique de la journée. Donc si bien que sur un comité scientifique de 7 personnes, il y a en fait 4 doctorants et doctorantes. Donc on s'est réunis régulièrement, à peu près tous les mois ou tous les deux mois, là, depuis l'automne, de façon à discuter des thèmes et des personnes à identifier. Puis ensuite, chacun d'entre nous a eu pour tâche de contacter une personne particulière et puis de lui faire écrire son titre et son résumé. Donc c'est aussi une démarche pédagogique en direction des doctorants. Et d'ailleurs, on peut dire que ça marche très bien parce qu'il y a beaucoup de doctorants aussi qui se sont, et doctorantes bien sûr, qui se sont inscrits à la journée. Donc ça semble être un succès par rapport à ce qu'on voulait faire.
Et vous m'avez dit un peu avant le début de l'interview que malheureusement avec les mouvements sociaux, il y a des intervenants et intervenantes qui ne pourront pas se rendre à Rennes. Comment avez-vous dû réorganiser du coup la journée, toutes les conférences vont quand même se tenir ?
Oui, alors déjà, du fait justement qu'il y avait un succès au niveau des inscriptions et puis qu'on a un amphi relativement petit où il n'y a pas plus de 60 personnes qui peuvent s'asseoir ensemble, on s'était dit qu'on allait n'importe comment avoir un plan B avec un événement hybride, avec aussi donc possibilité de suivre l'événement par Zoom. Mais ça a été d'autant plus opportun d'avoir ce plan B qu'en réalité, c'est maintenant les conférenciers. C'est pas seulement que le public est très nombreux et trop nombreux, c'est aussi que les conférenciers peuvent tout simplement pas venir parce que leurs différents trains ont été annulés. Donc finalement, sur 5 conférenciers ou conférencières, il y en a seulement une qui pourra être présente demain, mais tous les autres seront en train de donner leur présentation sur Zoom. Et bien entendu, au niveau des questions, c'est dans l'amphi que les questions vont partir. Donc, mais il y aura donc une partie du public sur Zoom, la plupart des conférenciers sur Zoom, et puis d'autres personnes présentes dans l'amphi.
Alors, qu'est-ce que va vouloir dégager cette thématique globale? Quel regard est apporté à l'égalité homme-femme à travers les sciences?
Alors, il y a un premier aspect qui est, bien entendu, la sous-représentation des femmes dans le milieu scientifique, qui est quelque chose de tout à fait réel, avec un plafond de verre important, avec aussi, dès qu'on monte dans la hiérarchie, dès qu'on regarde des grands prix scientifiques, etc., une sorte de disparition des femmes, qui a d'ailleurs, quelle que soit la présence des femmes au départ dans une discipline donnée, il y a des disciplines qui sont fortement féminisées au moment des études, mais on a le même phénomène au niveau élevé de la hiérarchie. Donc ça, c'est bien sûr une thématique importante, mais on a voulu aller un petit peu plus loin en se demandant comment l'activité scientifique elle-même pouvait être, je dirais, entravée ou comment dire, mal orientée du fait qu'il y a des inégalités femmes-hommes qui existent. Donc, ce qui fait qu'il y a certains thèmes de recherche sur lesquels on ne va pas insister, voire même des erreurs scientifiques qui peuvent être faites du fait qu'on ignore ces réalités des inégalités femmes-hommes. Et donc, on a voulu le faire, mais pas en général, sur des exemples particuliers. Et
justement, dans la brochure de la programmation de la journée, il est écrit, donc je cite, « Comment une discipline scientifique, en ne voyant pas les femmes, en ne les prenant pas en compte, voire en les discriminant, renforce un monde dominé par les hommes, ou au contraire contribue à l'égalité par des points de vue novateurs et des avancées scientifiques ?» Comment vous passez-vous vous, individuellement, par rapport à cette réflexion-là?
Alors bon, déjà, donc là, il n'y a pas de thème mathématique dans les conférences. C'est vrai qu'en mathématiques, c'est un petit peu difficile de dire, voilà, un théorème qui serait mal orienté parce qu'on n'a pas, on ne s'est pas intéressé, on n'a pas pris en compte les inégalités femmes-hommes. Donc ça, je pense que ça dépend quand même de pas mal des disciplines scientifiques. Donc là, on a tout un panel de disciplines, donc l'économie, la médecine, l'archéologie, l'analyse aussi scientifique du sport et puis donc tout ce qui est autour du numérique. Donc ça fait quand même un panel de sciences relativement diversifié pour une seule journée, quoi. Donc c'était ça notre objectif.
Alors la première conférence qui aura lieu demain évoque la place des femmes dans les métiers scientifiques. Donc pourquoi selon vous aujourd'hui il y a encore une sous-représentation des femmes et comment on pourrait parvenir à inverser cette tendance? Est-ce que vous pourriez nous donner un peu des quelques clés qui seront évoquées demain?
Alors en fait, cette conférence, ce n'est pas tellement pour parler de la sous-représentation des femmes, disons, elle part du fait qu'il y a une sous-représentation des femmes, c'est plutôt pour essayer d'évaluer dans toutes les interventions qu'on fait, que font depuis plusieurs dizaines d'années quelquefois les organisations en particulier, les associations féministes, etc., ou même dans le milieu professionnel, pour essayer d'atténuer ces disparités femmes-hommes en sciences. Et finalement, il y a beaucoup d'efforts de fait, mais on n'est pas toujours sûr que ça marche très très bien. Donc là, c'est une approche intéressante d'un jeune doctorant en économie. Et c'est un petit peu, pour si vous voyez, pour situer un peu les choses, c'est un petit peu la démarche d'Esther Duflo par rapport aux réductions des inégalités, c'est d'essayer de trouver quelles sont les actions qui marchent vraiment. Et pour ça, en fait, on compare des échantillons entre une population qui n'a pas été soumise à l'expérience et puis une population qui, elle, en a bénéficié. Donc c'est une approche qui permettra peut-être de passer à l'échelle, parce que c'est vrai que les associations font du très bon travail, mais souvent, on n'arrive pas à le généraliser au niveau de toute la population. Donc je pense que c'est une approche très prometteuse et j'ai trouvé que c'était intéressant de faire venir quelqu'un dans ce domaine.
Un peu parallèlement, et là on va parler de maths, la réforme des parcours lycée, elle a été révoquée. C'était une réforme qui avait fait chuter énormément la présence de filles dans les cursus de mathématiques, par exemple au lycée. Alors comment on peut contrer ce phénomène? Comment on peut attirer les écolières vers des parcours scientifiques?
Voilà, alors ça c'est justement tout à fait le thème de ce premier exposé. Alors là c'est l'exemple d'une réforme qui a sûrement été faite dans le meilleur esprit du monde, mais qui a eu des effets qui n'ont pas du tout été maîtrisés en ce qui concerne la disparition des filles. C'est-à-dire que dès que les maths sont devenues optionnelles et qu'il y a eu plus, disons, de liberté dans le choix des filières, on s'est rendu compte que les filles ont abandonné rapidement les sciences, donc ce qui n'était absolument pas ni anticipé, ni bien entendu souhaité. Donc maintenant, il faut un peu remonter la pente. Et une des pistes, ce serait d'informer les filles sur leurs chances réelles de réussite dans certaines filières, parce que quelquefois, elles ont tendance à s'évaluer, enfin à pas s'évaluer à leur juste valeur. Donc peut-être qu'en leur fournissant un moment stratégique des informations équilibrées sur leur chance de réussite, ça pourrait permettre de modifier leur choix. Bon, ce que je pense que n'importe comment, c'est un phénomène culturel extrêmement important. Et bon, c'est la question que vous me poserez tout à l'heure, mais j'entendais tout à l'heure à la radio que l'ONU Femmes dit que c'est environ dans 300 ans qu'on peut anticiper une égalité femmes-hommes. Mais ça, je trouve que c'est même presque optimiste, parce qu'il y a des domaines où il y a des régressions, comme ce qu'on est en train de dire là, sur la participation des filles. Donc, je ne sais même pas si on y arrivera dans 300 ans.
Et justement, de manière un peu plus générale, vous venez d'en parler, est-ce que cette sous-représentation des femmes dans beaucoup de domaines et cette société patriarcale donne des codes dès les plus jeunes âges aux jeunes filles, où justement elles se disent qu'elles ne sont pas capables d'aller dans cette voie-là ou que ce n'est pas pour elles? Est-ce que vous pensez que c'est toute cette société qui agit sur les choix des jeunes filles dès le plus jeune âge?
Oui, c'est sûr. Alors après, c'est souvent dans les regards des adultes, parce que les filles elles-mêmes, elles peuvent tout à fait s'amuser à faire des maths et puis être très contentes d'avoir certains jeux de construction, etc. Mais c'est vrai qu'on constate d'ailleurs que les jouets au moment de Noël sont de plus en plus genrés. Il y a vraiment la partie rose et la partie bleue dans les magasins. Donc c'est vraiment... ça finit par être intériorisé. Je ne pense pas que les filles spontanément aient ça dans la tête quand elles sont petites, mais rapidement, on a un peu tendance à leur enfoncer. Et malheureusement, bon, ces stéréotypes viennent aussi bien des femmes que des hommes, viennent aussi bien des parents que des enseignants, et aussi, bien entendu, de ce qu'on attend des filles dans la société, et puis de tous les jeux qu'on leur propose. Donc c'est un phénomène vraiment, vraiment important. Moi, je trouve aussi que... Donc je pense que ça me fait penser à la seconde conférence qui traite sur l'archéologie. Donc, femme et genre en archéologie, peut-on être une femme archéologue? C'est vraiment pas seulement le problème des femmes présentes dans le domaine de l'archéologie, c'est qu'il y a eu des erreurs d'interprétation de certains objets archéologiques qui venaient des stéréotypes que les gens avaient. Donc maintenant qu'on peut faire des analyses ADN, on se rend compte que... certains squelettes qu'on avait identifiés comme des squelettes masculins parce qu'il y avait une épée à côté étaient en fait des squelettes de femmes, ou voir que des couples d'amoureux qu'on a pu trouver à Pompéi n'étaient pas forcément un homme et une femme, mais pouvaient très bien être deux hommes. Et donc ça veut dire qu'on a vraiment fait des erreurs d'interprétation. Bon, enfin, tout le monde a en tête l'homme des cavernes en train de avec une massue à la main, en train de traîner par les cheveux sa future compagne. Donc la culture du viol, etc. Tout ça, c'est des choses qui ont imposé une certaine lecture de l'archéologie, et on en revient. Donc il y a vraiment, on se met des œillères en fait sur le plan scientifique quand il y a certaines réalités qu'on ignore, quoi.
La dernière conférence de la journée, elle aborde la problématique de la contraception et encore une fois ces inégalités. La question de la contraception masculine, elle se pose de plus en plus. Est-ce que vous pensez qu'un jour on arrivera à une quasi-égalité à ce niveau-là? Ou au moins, comment peut-on accélérer ce processus de la contraception masculine pour que ça ne repose pas uniquement sur le poids des femmes?
Effectivement, donc ça, c'est un thème vraiment très, très intéressant, très actuel d'ailleurs, parce qu'on entend régulièrement des nouvelles découvertes sur des techniques qui permettraient effectivement de mettre en place une contraception masculine basée aussi sur des hormones ou autres. Mais ce qu'on a constaté, justement, c'est là aussi qu'on voit que la science, finalement, avec ses stéréotypes, fait des différences importantes, c'est que le thème de la contraception masculine n'a pas du tout été privilégié, loin de là, et très difficilement traité par la médecine. Il n'y a pas assez de recherche dans le domaine, et c'est justement donc là-dessus qu'on a choisi de faire intervenir donc le responsable. Alors je cherche le nom de l'association. Donc c'est le responsable de l'association justement pour la recherche et le développement de la contraception masculine, et puis son collègue qui est médecin endocrinologue, qui vont intervenir demain. Donc on pensait que c'était un aspect effectivement tout à fait actuel des inégalités femmes-hommes et de la manière différente dont les sciences, et dans ce cas-là la recherche en médecine, abordent les problématiques des femmes et des hommes.
Pour finir cette interview, je voulais avoir votre avis sur des faits d'actualité. Donc on va un petit peu s'écarter de la journée organisée. Là, ça ne va pas être question de contraception, mais de protection périodique. Elisabeth Borne, la première ministre, vient d'annoncer en début de semaine le remboursement des protections périodiques réutilisables. Est-ce que vous saluez cette décision, mais est-ce que vous pensez qu'elle va assez loin?
Oui, je pense que c'est une très bonne chose. Alors après, c'est vrai que pour une personne de ma génération, bon, moi, je suis à la retraite actuellement, donc c'est certain que quand j'avais une quinzaine d'années, on utilisait des protections périodiques lavables. C'était des petites serviettes en éponge, et puis on les desséchait. Après, les tampons, l'utilisation des tampons, quand j'avais plutôt 18-20 ans, ça semblait vraiment une libération importante. Alors après, on se rend compte et ça l'a été. Enfin, je veux dire, ça rendait vraiment la vie beaucoup plus confortable. Maintenant, c'est vrai aussi qu'on se rend compte après du coût. D'abord du fait que c'est absolument pas disponible pour toutes les femmes dans le monde. Il y a beaucoup de femmes qui n'étaient absolument pas concernées par ces progrès. Et puis, on voit aussi le coût écologique, d'où le retour actuellement pour... effectivement, donc des protections lavables. Donc, bon, voilà. Moi, je ne l'ai pas pratiqué parce que j'étais, au moment où ça s'est mis à se pratiquer plus, j'étais déjà dans la période de la ménopause. Mais je pense que c'est une bonne chose. Et je dois dire que je fais aussi partie d'une association de solidarité avec le Niger. Et au Niger aussi, maintenant, on parle des règles et on informe les jeunes filles et on leur donne des protections, y compris gratuites, qui leur rendent effectivement la vie plus agréable.
Et vous avez commencé à en parler tout à l'heure aussi. En début de semaine, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déploré qu'on s'éloignait de plus en plus de l'égalité des sexes. Et donc l'organisation de l'ONU Femmes a fixé cette égalité à dans 300 ans environ. Alors est-ce que vous partagez cet avis et pensez-vous qu'il reste énormément de chemin à parcourir et que parfois, malheureusement, on ne va pas vraiment dans le bon sens?
Mais oui, enfin, on en a vu un exemple tout à l'heure quand on a parlé de l'évolution de la proportion des filles faisant des mathématiques dans les années récentes. C'est vrai que c'est quelque chose de contre-intuitif. On a tous l'impression que non, il y a un progrès vers lequel on est en train d'aller. Toutes les lois ont changé. C'est vrai qu'en France, on a connu énormément de progrès dans les dernières décennies. Donc, tout devrait aller mieux, tout va s'arranger tout seul. Bon. Franchement, c'est pas ce qu'on constate. Et moi, je ne sais même pas. Bon, je comprends bien l'histoire des 300 ans. C'est parce qu'on voit que les progrès sont tellement lents qu'on fait une extrapolation. Mais qu'est-ce qui se passera d'ici là? Est-ce qu'il n'y a pas des endroits aussi dans le monde où c'est même encore pire? Enfin, bon, on peut citer l'Afghanistan. Je pense que c'est quand même un jour pour penser aux femmes d'Iran et aux femmes d'Afghanistan et aux femmes de beaucoup de pays aussi pour lesquels certains droits ont été carrément supprimés. Donc... peut-être que 300 ans, c'est un peu optimiste, finalement.